ce matin, excusez, on va se poser la question au sujet du moment de la prière. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions de ta présence et nous nous humilions encore une fois. Que tu sois vu, que tu sois entendu, que tu sois seul glorifié. Amène-nous proches de toi, Seigneur, moi le premier. Que chacun de nous ici, nous puissions sortir rafraîchis, approfondis, peut-être repris, réprimandés, mais aussi instruits, encouragés, afin de pouvoir prier selon ce que tu nous demandes. Pardonne-nous, Seigneur, notre négligence à la prière. Fais-nous des hommes et des femmes de prière pendant qu'il est temps encore sur cette terre. Au nom de Christ. Amen. Si Christ a prié sur cette terre, à combien plus forte raison devrions-nous prier? Tous les grands hommes de Dieu ont ce dénominateur commun quand on lit la biographie des missionnaires ou des hommes de Dieu qui ont marqué leur temps et les grands réformateurs. Ils passaient des heures et des heures dans la prière et je dirais tous les jours. Dans les grands réformateurs, que ce soit Luther ou Calvin ou John Knox ou même Jean Hus, ce précurseur de la réforme qui est mort catholique, brûlé vif avec une Bible autour de son cou parce qu'on lui reprochait d'être biblique, imaginez. Ces hommes et ces femmes, hein, sans parler de Marie Durand à la tour de Constance qui a persévéré malgré son emprisonnement et qui a écrit de ses ongles sur le mur de pierre résister. Et par la prière, elle a pu faire face à ses bourreaux et la liste serait longue et longue et longue de parler de tous ceux qui ont été persécutés, etc. Mais qui ont changé le cours de l'histoire. Et déjà dans la Bible, on voit un grand nombre de personnes, que ce soit les patriarches, Abraham, Isaac et les grands prophètes. Je pense à Josaphat, Ézéchias, Ésaïe, Jérémie, Néhémie qui ont laissé des prières qui ont changé le cours du temps d'Israël. Comme ces rois et David, n'est-ce pas, et ses prophètes Samuel, Moïse et l'apôtre Paul et tous ces missionnaires dont on peut lire les biographies, que ce soit Charles Studd, John Taylor, c'est mes favoris, vous avez les vôtres, et toute une liste de gens qui ont marqué leur vie de l'impression de la prière, tellement ils étaient proches de Dieu. Et ce revivaliste Charles Finney, qui passait de lieu en lieu, proclamant un réveil spirituel, et les gens, tellement convaincus de leurs péchés, se mettaient à terre pour crier à Dieu de les sauver, de les arracher de ce monde de pécheurs et de péchés plutôt, et de l'enfer, parce qu'ils voyaient vraiment l'éternité devant eux. Et tous ces hommes qui ont marqué leur temps avaient donc ce dénominateur commun, ils passaient du temps dans la prière. Peut-être avez-vous entendu parler d'Adolphe Monod. Adolphe Monod, cette famille Monod protestante, qui a marqué par différents professeurs bien connus, notamment à Montauban, il y avait famille Monod qui était professeur dans une université théologique qui maintenant, je pense, n'existe plus. Mais c'était une famille qui a fait beaucoup réfléchir. Et il y avait un homme qui s'appelait Adolphe Monod, un prédicateur qui arrivait quand même à prêcher 2-3 fois par jour. Et un jour, il s'est écrié « aux croix de la prédication de la croix ». Et il savait ce dont il parlait. Mais il a écrit au chevet de sa mort. Il a écrit, on a recueilli ses adieux, il a écrit lui-même, il allait mourir, il a écrit certaines choses qui font réfléchir un homme de Dieu d'une trempe exceptionnelle, mais qui a écrit ceci à la fin de sa vie. Et je vous le lis parce que ça fait réfléchir. « Ah, si je revenais à la vie, je voudrais, avec le secours de Dieu et en me défiant de moi-même, donner à la prière beaucoup plus de temps que je n'ai fait et me reposer sur elle beaucoup plus que sur le travail, qu'il est cependant de notre devoir de ne jamais négliger, mais qui n'a de force qu'appuyée et animée par la prière. Cet homme, qui était un grand prédicateur, à la fin de sa vie, un homme de Dieu, a réalisé qu'il n'avait pas en fait assez pris le temps de prier. Où en sommes-nous, nous-mêmes, en tant qu'individus, en tant qu'Église, prenons-nous le temps de prier? Nous n'avons qu'une seule vie à vivre sur cette terre. Pour qui, pourquoi allons-nous la vivre? Dieu cherche, nous dit l'Ancien Testament, des intercesseurs, des sentinelles pour intercéder, pour plaider la cause de Dieu, se plonger dans le cœur de Dieu pour à la fois ressentir son amour, mais aussi porter ses fardeaux en quelque sorte, partager sa vision du monde et certainement la perdition du monde, et intercéder et plaider à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous allons suivre ce matin sur ses traces de vie de prière en esquissant quelques passages de la parole de Dieu, quelques moments qu'il a eus dans la prière. Et sans plus tarder, je vous invite à tourner dans vos Bibles à Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 32. Marc chapitre 1. Verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Il est évident que le Seigneur Jésus a passé un grand nombre d'heures par jour dans la prière. Si le Fils de Dieu, venu sur terre, a pris le temps de prier pour dépendre de Dieu le Père, pour réaliser et faire les œuvres de Dieu le Père, à combien plus forte raison avons-nous, nous, besoin de prier, d'être en communion avec Dieu qui est devenu notre Père, pour nous qui l'avons accepté, et de prier et d'intercéder, sachant que nous pouvons gagner la journée dès le matin ou la perdre, dépendamment que nous la remettons entre les mains du Seigneur. Je vous l'ai déjà donné cette anecdote, mais je l'aime tellement que je la répète ce matin. Charles Studd se levait le matin à 5 heures et il disait « Je frappe sur le diable avant qu'il me frappe dessus ». Quelque part, c'est le matin que la journée se gagne. C'est le matin, à genoux, ou à plat ventre, ou debout, ou assis, peu importe, que nous devons prier notre Seigneur afin de lui remettre toutes les activités de la journée. C'est bien d'ailleurs de commencer le lundi matin de bonne heure et de laisser devant le Seigneur les activités de toute la semaine. Jour après jour, Dieu nous appelle en fait à prier parce que, comme d'ailleurs a dit un frère dans sa prière ce matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent à chaque matin. Dieu veut nous donner ce qu'il nous a déjà donné, Christ. Dans sa plénitude, nous sommes assis dans les lieux célestes. Et au lieu d'être des mendiants, nous pouvons au contraire profiter du trésor qui nous a déjà été donné. Nous sommes en Christ. Nous sommes bénis dans les lieux célestes. Nous sommes au bénéfice des bénédictions que Dieu a déjà déversées et qui ne demandent qu'une chose, c'est de déverser sur nous. Et pourtant, parfois, nous agissons comme des pauvres, spirituellement parlant, comme des démunis, comme voire des handicapés, alors que Dieu veut donner force et vigueur parce qu'il est tout puissant pour bénir ses enfants. Et d'ailleurs, il ne désire que cela, parce que nous sommes devenus l'objet de son amour tendre et bienfaisant. Et les bienfaits de l'Éternel sont là pour être répandus dans nos vies. Mais évidemment, Dieu prend plaisir à ce que nous prions. Est-ce que Dieu sait d'avance, même avant que nous prions ce que nous allons demander? Oui, mais il prend plaisir à ce que nous le fassions. Et dès le matin, comme Jésus-Christ, il est écrit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus-Christ prenait du temps dès le matin pour s'adresser à Dieu le Père. Et quand on voit ici, juste dans le contexte de ce passage, on va en voir d'autres ce matin, on voit que c'était un homme, enfin, notre Sauveur, était fort occupé. Il guérissait les malades et il chassait les démons. Et je peux vous dire que dans la faible expérience que nous faisons ici à l'Église dans ces domaines-là, chaque fois que nous devons faire face à ces difficultés spirituelles, notamment de chasser l'adversaire, c'est tout un effort du cœur, de la foi, et qui est épuisant. Le domaine spirituel, le combat de la prière et la délivrance et la victoire sur l'ennemi demandent une consécration de cœur, de foi, qui demande de la force et de la vigueur. Et cela est possible dans la prière. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Alors, j'ai envie de vous le dire. Bon, j'avais planifié de le dire tout. Hein. Je le dis à l'instant. J'ai plusieurs points dans mon message. Hier, nous avons parlé de la vie collective, de la vie de prière, dans le cadre de FBA, Formation biblique de l'Alliance, avec les étudiants qui étaient là. Et puis, il y avait une question, il y avait, je ne sais plus, 10 ou 11 questions. La question 9, là, sur la feuille, c'était: qu'est-ce que vous vivez, vous, dans votre vie d'église, en tant que réunion de prière ou vie de prière collective? Eh bien, on a dû reconnaître que les obstacles à la participation, à la vie de prière collective, sont souvent liés à la paresse, à l'égoïsme. Comment se fait-il que certains prient pour les autres et que d'autres ne viennent pas prier pour les autres? Comment se fait-il qu'on a mille et une excuses pour ne pas venir à la réunion de prière ou prier tous ensemble, parce qu'on est tellement occupé, on est préoccupé, on a mille et une choses à faire, mais parce que tout simplement, et c'est un constat qui est douloureux à entendre, je peux comprendre cela, parce que c'est un combat. Qui dit prier, dit combattre. Et dans le combat de la prière, il y a le cœur qui se révèle tel qu'il est, et puis aussi l'ennemi qui se manifeste. Et à genoux, ensemble, il y a une puissance collective qui fait que le Seigneur va agir avec force. Et pour cela, il faut prendre son courage à deux mains et dire: Seigneur, par ta grâce, me voici, me voilà, je viens prier. Mais reconnaissons que nous avons du mal parfois à faire cet effort de venir prier et d'intercéder, que ce soit le matin seul de bonne heure, que ce soit en groupe, parce que ça demande un renoncement à soi-même et une grâce particulière, c'est vrai, parce que l'esprit de prière, il faut le souligner de suite, l'esprit de prière, c'est Dieu qui l'accorde. On est tellement égoïste par nature que naturellement, on n'a pas envie de prier. On n'a pas même envie d'adorer Dieu dans notre nature adamique. Et si Dieu ne nous eût pas donné son esprit et Jésus-Christ qui est, et dont notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit en nous, eh bien, on serait incapable même de prier. Donc, c'est une grâce de prier, mais c'est une grâce que Dieu nous demande d'exercer. Je me souviens un jour, et ça va aller un petit peu plus loin, dans Luc chapitre 6, verset 12, pour illustrer cela. Luc chapitre 6, verset 12, j'ai fait une expérience un jour dans la prière, et s'il y a quelques illustrations ce matin, ce n'a que pour but de appuyer ces vérités et montrer la grâce du Seigneur Jésus dans nos vies. Alors, il est écrit en Luc chapitre 6, verset 12, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Non seulement il se levait de bonne heure, dans certains cas, mais parfois, il a passé toute la nuit en prière. Et je dois dire que quand, pendant longtemps, j'ai lu ce texte et je me suis dit, ça c'est pour le Seigneur. Lui, il avait la capacité de passer la nuit en prière. Ou c'est pour certains moments de réveil exceptionnel où Dieu est tellement présent que les gens restent ensemble pour prier toute la nuit. Personnellement, je m'imaginais mal, par exemple, de provoquer en tant que pasteur, en tout cas c'était certainement mes limitations, une nuit en prière, je me suis dit, il n'y aurait pas grand candidat. Jusqu'au jour, un jour, pour une raison tout à fait personnelle, il a fallu un soir que je prie. Et que je prie sans pouvoir m'arrêter. Toute une nuit. et de ne pas sentir la fatigue. Je me suis dit, mais ça c'est miraculeux, alors ça ne venait pas de moi. Hein. Mais l'Esprit de Dieu, pour un sujet bien précis, qui était très important, dans une situation particulière, qui avait beaucoup d'enjeux, je dirais. Et alors, je me suis dit, mais finalement, c'est Christ qui prie en nous. C'est possible de prier, pourquoi pas une nuit, si Christ prie en nous. Donc c'est bien un esprit de prière qui peut nous pousser à prier. C'est quelque chose qui est plus fort que nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut provoquer par soi-même. Ce ne sont pas nos efforts d'état d'âme ou de chercher des forces en nous-mêmes. C'est tout simplement le Christ en nous. Et chacun de nous qui avons le Seigneur, nous avons cette même puissance, le Saint-Esprit, qui est survenu sur nous, qui nous a scellés et qui maintenant, par ce cri « Abba Père », nous pousse à prier et à intercéder auprès de Dieu le Père. Vous vous rendez compte, Dieu est un Père. Ce Père qui prend soin de nous, prend plaisir à ce que nous prions. Et il peut pousser à prier toute la nuit. Et c'est une expérience que Dieu peut renouveler parce qu'il est tout puissant. Je ne dis pas maintenant qu'il faut décider de prier toute la nuit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un temps où Dieu peut nous demander à prier toute la nuit. Est-ce que nous sommes prêts à cela? Vous savez, je ne sais pas comment vous vivez avec le Seigneur parfois dans les nuits ou les matins, mais il y a un verset, moi, qui me trottine dans l'esprit et qui me pousse, mais que je n'aime pas trop entendre. Et pourtant, il est bien là. La Bible dit « Le paresseux tourne dans son lit comme une porte tourne autour de ses gonds ». Et quand vous êtes réveillé dans la nuit, ou un peu plus de bonheur que ce que vous aviez pensé, et qu'il vous semble que, tiens, pourquoi pas, c'est le moment de prière, et que vous tournez dans le lit, l'oreiller d'un côté, n'est-ce pas, l'oreiller de l'autre. Ah Seigneur, le paresseux tourne dans son lit, comme une porte tourne dans ses gonds. Alors Dieu peut parler peut-être à nos consciences, et nous pousser un petit peu, à cause de ces vérités, à nous lever ou à nous mettre à genoux, à intercéder, et c'est étonnant comment Dieu peut pousser quelqu'un à prier. Je me souviens du papa de Louis qui une nuit a prié en demandant à Dieu de protéger son fils Stuart, qui était engagé dans l'armée au Vietnam, et Dieu l'a poussé à prier dans la nuit, à le réveiller et à prier parce qu'il sentait qu'il était en danger. Et l'histoire, c'est que tout son bataillon avait été exterminé. Il était le seul soldat qui était resté vivant. Et Dieu a permis, grâce aux prières, que Dieu envoie un hélicoptère. Ils ont repéré où était le soldat perdu. Hein, pour pas dire le soldat Ryan, en tout cas, il était tout seul. Et ils l'ont délivré. Vous vous rendez compte de cela? Mais ce n'est qu'un des petits exemples, parmi les milliers d'exemples qu'on pourrait partager ici, certainement entre nous déjà. Parce que c'est Dieu qui est la source de l'exaucement. Mais Dieu peut tout. Mais est-ce que nous le croyons vraiment? Est-ce que nous nous mettons à genoux pour prier pour les autres? Pour nous oublier nous-mêmes? Est-ce que nous pensons aux autres? Est-ce que nous vivons pour les autres? Jésus-Christ a vécu sur la terre pour les autres. Il se levait de bon matin, il priait toute la nuit, il priait aussi avant les grands événements de sa vie. Regardez avec moi, Luc chapitre 6, verset 12, on l'a lu, qu'il a prié toute la nuit, et au verset 13, il est écrit « Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. » Et vous avez la liste, et même Judas, le traître. Vous vous rendez compte, Jésus a prié toute la nuit, en fait, pour choisir ses 12 apôtres. Ça veut dire que, moi, il y a un verset aussi qui me bouleverse. C'est en Jean chapitre 4, quand Jésus dit « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. » Ouf, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Combien de fois par jour nous mangeons, surtout dans nos pays occidentaux où nous sommes tellement chéris, 3 fois par jour. Je me souviens, tenez, notre frère Pierre, là, qui est allé en Haïti, participer à la construction d'un hôpital avec quelques membres de l'église de Québec, à Beauport, et qui a été invité un soir par un frère de l'église et qui lui a offert un chocolat chaud, une banane, et c'était le meilleur repas qu'il pouvait lui être donnée. Et c'est cette équipe qui est revenue de l'église après, de Tahiti, à l'église, ont dit, mais on ne peut plus être comme avant. On a vu des gens souffrir de faim et vivre dans la misère. Et voilà, nous avons besoin de prier pour les autres. Nous avons besoin de prier pour être dans la volonté de Dieu. Et Jésus disait, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. La première chose, même avant de manger, ça devrait de penser, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que j'accomplis ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui? On peut prier pour les grands événements de notre vie. Le choix d'une carrière, le choix d'un conjoint, c'est très très important de prier pour cela. Et on peut prier pour tous les jours que la volonté de Dieu se fasse. À Marc chapitre 1, si vous retournez dans le texte qu'on a lu au tout début, Jésus s'est levé de bon matin parce que tout simplement, il a prié pour une campagne d'évangélisation. Si vous lisez tout ce qu'il est en train de faire, au verset 39, il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Jésus était en pleine campagne d'évangélisation. Pour proclamer la parole de Dieu, Jésus guérissait les malades, il délivrait les hommes des démons, mais tout ça lui était accordé pour ce ministère public, lui était accordé à cause de la prière. Jésus priait. Il n'y a pas de succès dans aucun ministère s'il n'y a pas la prière. Le succès du ministère dépend de la mesure de la consécration dans la prière. Comme a dit quelqu'un encore ce matin, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, prions, prions. Et un exemple frappant, qui est quand même puissant, c'est Luc chapitre 9, si vous voulez lire avec moi. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, verset 18. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, « Qui suis-je au dire des hommes ?» Il répondit, « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres comme des anciens prophètes et ressuscités. » Et vous leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit, « Le Christ de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Il y a en Luc chapitre 22, si vous tournez avec moi à nouveau, en Luc chapitre 22 et au verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation ». Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jeu de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sœur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qui trouvaient endormis de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Le Seigneur Jésus avertit ses disciples qu'il devait mourir. Et toute sa vie, Jésus, chaque jour passant, savait qu'il allait mourir sur la croix. Et cela lui a été rendu possible de vivre ce chemin de calvaire jour après jour, d'être prêt à aller se sacrifier sur la croix, que parce qu'il est demeuré dans la présence de Dieu le Père. Et le jour où il était dans le jardin de Gethsémané en train d'entrevoir la croix, il a prié en agonie pour que Dieu, pour se soumettre à Dieu le Père. Et la Bible dit en hébreu, il a pris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il est devenu l'auteur d'un salut éternel, l'auteur d'un salut éternel, parce qu'il a été prêt à mourir. La croix, c'est la mort. Et Jésus a été prêt à prendre cette croix tous les jours de sa vie, et littéralement à être cloué sur la croix parce qu'il priait. Dieu nous appelle à renoncer à soi-même et à mourir, à prendre notre croix, à mourir à soi-même. C'est possible seulement dans la prière. Et au moment de la tentation, au moment de l'épreuve, le mot ici pourrait être traduit aussi par épreuve, au moment de l'épreuve, nous ne pourrons résister à l'épreuve que si nous sommes dans la prière. Il y a des croyants qui tombent dans la tentation et qui tombent dans le péché parce qu'ils ont oublié de prier. Je me souviens un jour avoir lu dans une revue africaine une anecdote d'une réunion de prière qui se faisait à l'église et les frères venaient d'un peu partout, c'était au milieu de la brousse. Et un jour, le pasteur ou le frère ancien est allé voir un jeune frère, il lui a dit, tu sais, depuis quelque temps, j'ai remarqué que l'herbe pousse entre ta maison et l'église. Tu ne viens plus à la réunion de prière. Est-ce que l'herbe a poussé au point que vous trouvez une montagne comme des obstacles de venir à la réunion de prière? Vous savez, un jour, on va être chacun jugé devant Dieu pour ce que nous allons avoir fait sur terre et comment nous allons vivre. Et j'ai besoin de le vous dire ce matin, parce que c'est le conseil de Dieu, c'est pas moi, c'est ce que dit la Bible. Qu'avons-nous fait de notre temps? Qu'allons-nous répondre à Dieu qui a donné Christ sur la terre pour mourir sur la croix, qui a tout donné? Quelles excuses allons-nous avoir de présenter à Dieu pour dire « je n'avais pas le temps de prier » Mais nous n'aurons pas d'excuses, frères et sœurs. Si Dieu ne nous trouve pas à genoux sur terre, il ne nous élèvera pas dans le ciel dans toute sa gloire. Oh, il le fera parce qu'il nous a sauvés. Mais dans toute sa plénitude de récompense, il voudrait nous accorder ce privilège sur terre de prier, parce que nous n'avons qu'une vie à vivre. Et maintenant, c'est le temps de nous réveiller. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Regardez avec moi Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, verset 23. Aussitôt après, verset 22, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. Vous vous rendez compte, la vie de prière du Seigneur, c'est intense, hein? Il était à l'écart. Et c'est juste après la multiplication des pains. Et en Jean 6, gardez un doigt sur Matthieu, en Jean 6, verset 15, je voudrais le lire pour appuyer ce point, il est écrit, « Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. » Donc il priait. Vous savez pourquoi Jésus priait? Il priait non seulement avant des événements qui étaient devant lui, mais il priait aussi après les grands événements ou les grandes œuvres importantes de sa vie. Il y a un danger pour le croyant, après avoir été béni par l'Éternel, de négliger la prière et de penser que lui-même peut accomplir les œuvres de Dieu. Et c'est ce que Dieu a appris au peuple d'Israël dans le désert. Que l'homme ne devrait pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est incroyable, frères et sœurs, comme nos cœurs sont tortueux. Et après avoir été bénis de Dieu, nous devons veiller à nous humilier pour rester dans la bénédiction de Dieu, afin de ne pas nous enorgueillir, mais d'être toujours dépendants de lui, de lui donner toute la gloire, parce que Dieu bénit dans la mesure où nous nous humilions pour reconnaître que lui agit et qu'à lui appartient seulement toute la gloire et l'honneur. Il y a un danger de l'orgueil spirituel. Et quand Dieu permet des bénédictions dans nos vies, nous devons d'autant plus prier pour demeurer dans cette bénédiction et lui donner toute la gloire, afin de, sur l'élan, de tout simplement nous faire du roue libre et nous reposer, et finalement nous détourner de Dieu. C'est un piège, ça, dans la vie du croyant. Cinquièmement, j'aimerais dire, alors je vous rappelle ce qui a été déjà dit, Jésus priait le matin de bonne heure, les bonnes heures du matin sont les plus fraîches, priait parfois toute la nuit, priait avant les grands événements, priait aussi dans des circonstances de grandes œuvres, après des grandes œuvres ou des moments de crise, et puis prier aussi quand sa vie était exceptionnellement active. On peut penser parfois, et personnellement, c'est peut-être un de mes obstacles dans la vie de prière, que l'activité peut primer sur la prière. C'est un danger, cela. Oui, il y a des choses à faire, même pour le Seigneur, il y a des choses à accomplir. Mais c'est d'autant plus nécessaire de prier que nos vies sont actives pour le Seigneur. Parce que le grand danger dans la vie d'une église comme dans la vie d'un croyant, c'est de tomber dans l'activisme, où l'homme fait quelque chose encore de sa propre volonté ou chair ou capacité sans la présence de Dieu. Il y a toute une différence d'accomplir l'œuvre de Dieu. D'accomplir l'œuvre de Dieu, c'est un pléonasme, avec ou sans Dieu. On ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu sans Dieu. Et pourtant, on peut prier sans être dans la présence de Dieu. On peut lire la Bible sans être dans la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier et lire la Bible. Hein. Mais on peut évangéliser sans être poussé par l'amour de Dieu. Alors, c'est toujours l'occasion de s'humilier et d'aller vers Dieu et dire « Seigneur, remplis ton serviteur qui veut te servir, mais donne-lui ton esprit, ta force pour pouvoir te servir. » Alors en Luc chapitre 5 et au verset 15, le Seigneur était extrêmement actif dans cette période. Il est écrit au verset 15: Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts, il priait. Vous vous rendez compte? Qui n'aimerait pas voir Jésus-Christ aujourd'hui? Jésus-Christ aurait beaucoup de choses à faire et à dire, et de son temps, c'était la même chose. Et pourtant, il passait énormément de temps dans la prière, seul, dans les déserts. Alors que le monde avait tellement besoin de Jésus-Christ, la lumière du monde, a-t-il dit. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Pourquoi il se retirait pour prier? Parce que sa renommée se répandait et il était de plus en plus sollicité. Mais il voulait faire et accomplir uniquement l'œuvre de Dieu. Et ça fait penser à une chose, il y a tellement d'activités possibles autour de nous et tellement de besoins autour de nous. Comment faire pour répondre aux besoins de ce monde? Ils sont tellement nombreux. Où aller évangéliser? Mais le monde entier a besoin d'évangélistes et d'évangélisation et ainsi de suite. Eh bien, Dieu veut conduire ses enfants au bon moment, à la bonne place, pour un ministère particulier, parce que nous ne pouvons pas tout faire. Mais par contre, nous devons accomplir l'œuvre que Dieu a préparée pour nous d'avance, au bon moment, au bon endroit, parce que c'est Dieu qui vous a choisi de le faire. Et il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Si Dieu a voulu que vous soyez à un endroit précis pour faire une chose précise, eh bien, disposons nos cœurs dans une dépendance de la prière pour justement faire ce que lui veut accomplir au travers de nous. Et puis, on va terminer avec cela, c'est Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, à l'exemple de Jésus-Christ. On en a déjà parlé, mais il est écrit au verset 41, Matthieu 26, 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La tentation, l'épreuve est là. La seule façon de surmonter la tentation, c'est par la prière. Dans les grands moments de tentation, nous devons prier afin de ne pas tomber dans la tentation, parfois même de jeûner. Alors, comment appliquer tout cela? On n'a suivi que quelques traces de la vie de prière de Jésus-Christ ce matin. On n'a pu esquisser que quelques événements. Est-ce que vous croyez qu'en Thessaloniciens, quand Paul écrit « prier sans cesse », il a menti? Il n'a pas menti. Il a dit « prier sans cesse ». Maintenant, ça ne veut pas dire que depuis le matin où on se lève, comme les moines, n'est-ce pas, qui vont réciter des prières par cœur, on doit sans cesse réciter des prières ou avoir un chapelet sur soi. Ce n'est pas ça que Dieu demande. Mais le prier sans cesse, c'est avoir une disposition d'esprit et de cœur qui peut être disponible devant Dieu pour prier en tout temps, en toutes circonstances. C'est une disposition du cœur. La Bible dit aussi, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et en Éphésiens 6, verset 18, écrit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Nous devons apprendre à prier en tout temps. Maintenant, je me souviens d'un frère, je dis le nom parce que Pierre le connaît, Monsieur Descaro, qui était jeune converti. Alors, il était tout zélé, il a compris enfin le plan du salut, il se réjouissait, et puis il commençait à venir à la réunion de prière, il était béni dans son âme, et puis il s'est mis à prier en conduisant, et puis il s'est mis à prier au feu rouge, sauf que la lumière était passée au vert, mais il avait toujours les yeux fermés jusqu'à ce que quelqu'un klaxonne, s'énerve derrière lui, tellement il avait envie de prier. Mais c'est merveilleux cela. Mais non, il faut être sage dans la mesure, dans la façon dont on prie. Mais vous savez, c'est une disposition de cœur. Le Seigneur veut que nous prions en tout temps. Même lorsqu'on est malade, la Bible dit que nous pouvons appeler les anciens et qu'ils prient et qu'ils soignent le malade d'huile et de prière. Alors nous pouvons prier pour les frères, les sœurs, l'Église, on peut prier seul, on peut prier en famille, on peut prier secrètement. Et j'aimerais vous dire que, bien, par exemple, Daniel priait 3 fois par jour. 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Samuel, Anne, il nous est écrit qu'elle avait prié longtemps devant Dieu pour obtenir cet exaucement magnifique d'avoir un enfant alors qu'elle était stérile. Le psalmiste dit, « Ô Éternel, j'implore ton secours, et le matin ma prière s'élève à toi. » En acte 10, verset 9, Pierre prie vers la 6e heure, c'est midi. En acte 10, il est écrit que Corneille, que Pierre va visiter, justement, priait continuellement Dieu. Il est écrit en 2 Timothée, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi, que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Un fardeau constant. On a lu tout à l'heure, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Enfin, c'est plutôt Luc 21. Éphésiens 6, 18, il est écrit, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Jésus a dit en Luc 18, cette parabole, la parabole du juge unique, de montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Thessaloniciens nous dit prier sans cesse. Colossiens 1:3 dit Paul, nous rendons à grâce à Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne cessons de prier pour vous. 1 Thessaloniciens 3:10 nous dit, nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Voyez-vous, ici, Dieu a un plan pour nous, c'est de prendre le temps de prier. Et je termine vraiment, maintenant, par cet avertissement, en 1 Samuel 12, versets 23-24, qui doit nous faire tous réfléchir, non pas à nous amener à des sentiments de culpabilité, mais de responsabilité devant Dieu. Il est écrit, « Loin de moi, c'est Samuel qui parle, loin de moi aussi, de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. » Le manque de prière est un péché par omission, c'est ce que dit Samuel. « Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. » Prions. Seigneur Jésus, tu nous as montré ce matin l'importance de prendre le temps pour prier, que ce soit le matin, le midi, le soir, la nuit, de prier en tout temps, en toute chose, et de ne pas cesser de prier. Pardonne-nous, Seigneur, les moments où nous ne prenons pas le temps de prier. Pourtant, il est question d'éternité autour de soi. Visite-nous, Seigneur, chacun ici ce matin. Fais-nous grâce, pardonne nos négligences dans nos vies de prière. Fais-nous la grâce, Seigneur, de nous instruire pour faire de la prière une priorité et de prendre le temps d'être avec toi, de prendre le temps de prier. Enseigne-nous à prier, Seigneur. Nous te le demandons ce matin, au nom de Christ.